Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Politique Facile sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Philippe, votre présentateur, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de Sorbonne Nouvelle de Paris et Humboldt Université de Berlin. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler des élections municipales à Paris. Nous allons vous expliquer le fonctionnement de ces élections de manière simple. Nous accueillerons ensuite notre chroniqueuse Madeleine qui va nous parler de l'impact politique des voix. Après une petite pause musicale, nous écouterons Chant, journaliste spécialisé en politique parisienne, interviewé par Aileen. C'est parti pour Politique Facile. Notre chroniqueuse Madeleine s'installe en studio. Aujourd'hui, tu viens nous parler des élections municipales parisiennes.
Oui, je vais vous parler de l'impact des votes. On va se poser la question ensemble. Est-ce que voter pour les élections municipales a réellement un impact ? On entend différentes perspectives qui se croisent concernant les élections municipales. On peut entendre qu'il est extrêmement important de faire valoir ses droits démocratiquement, comme on peut aussi entendre que c'est inutile d'aller voter car nos voix comptent finalement peu. Mais alors, le vote a-t-il un réel impact et une réelle utilité ? Les élections municipales ont des enjeux propres et locaux qui sont très différents selon la zone géographique dans laquelle elles se déroulent. Les enjeux ne seront pas les mêmes à Paris, qui compte 1 379 084 électeurs inscrits sur liste électorale selon l'INSEE en 2026, qu'à Châtainvilliers dans l'Eure-et-Loire, qui compte 503 inscrits. Les politiques menées par les mairies peuvent avoir un impact sur les personnes précaires comme les sans domicile fixe ou les personnes qui ont besoin d'un accès aux logements sociaux. En revanche, les mairies et localités ne gèrent pas d'affaires internationales ni de grandes décisions qui pourraient éventuellement éliminer le 7e continent de plastique. Un impact limité donc, mais qui peut changer des choses pour les personnes précaires.
Merci Madeleine. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé, la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon? Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant, comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Une semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
Je vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'es inventer et chauffer, chauffer, bah t'entends les pulsations dans tes tympans, hein. Chanter, chanter, c'est qu'encore écouter, écouter lundi méchant.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant.
On vient d'écouter Lundi méchant de Gaël Faye. L'émission Politique Facile continue sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à nos journalistes Aileen. Vous recevez Sean. Vous allez nous parler des élections municipales parisiennes.
Bonjour mesdames et messieurs. Moi, je m'appelle Aileen Grunwald. Je suis une journaliste pour Politique Facile et je viens d'Allemagne. Alors, je vais faire une interview avec Sean, un vrai Parisien et expert de la politique parisienne.
Bonjour Aileen.
Merci d'être ici. Je suis curieuse. Quand est-ce que les élections ont lieu?
Alors, les élections ont eu lieu ce dimanche dernier et ce prochain dimanche. Donc, ce dimanche 15 mars 2026 a eu lieu le premier tour. Et ce dimanche prochain, le 22 mars 2026, aura lieu le deuxième tour.
Ok. Et comment fonctionnent les élections municipales à Paris?
Alors, 1,38 million de Parisiens ont été appelés aux urnes. La particularité de Paris, c'est que les Parisiens doivent voter deux fois. Ils doivent d'abord voter pour le maire de la ville de Paris, puis ensuite pour le maire de leur arrondissement.
Ok. Et qui sont les candidats les plus importants à Paris?
Alors, tout d'abord, nous avons le parti de la maire sortante, Anne Hidalgo, le PS. Donc, le candidat de l'Union de la gauche est Emmanuel Grégoire. Pour représenter la droite, nous avons la candidate LR Rachida Dati. À gauche, nous avons également la candidate LFI Sophia Chikirou. Et enfin, pour l'extrême droite, nous avons la candidate Reconquête Sarah Knafo.
Qui a gagné le plus de votes dans le premier tour?
Alors, en liste des têtes, nous avons Emmanuel Grégoire, donc de la gauche, qui a eu 37% des voix environ. Il est suivi de Rachida Dati, qui a reçu environ 25% des voix. Ensuite, nous avons Sophia Chikirou, qui a reçu environ 11% des voix. Donc, on remarque, si on regarde une carte des résultats, que l'Ouest parisien a plutôt tendance à voter à droite, tandis que l'Est parisien a plutôt tendance à voter à gauche, ce qui est une constante qui se retrouve déjà dans les résultats des élections précédentes.
Ok, merci beaucoup Achan, je pense que j'ai compris beaucoup, et merci pour votre expertise.
Ah, merci pour l'invitation.
Merci à tous, la suite arrive sur Politique Facile. C'est la fin de notre émission Politique Facile. Merci à Aileen, votre intervieweuse, Sean, notre invité spécialisé en politique, et bien sûr, notre chroniqueuse, Madeleine. Merci à Lily Rose pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez l'émission Dans vos têtes sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Léa, votre présentatrice pour cette émission d'aujourd'hui et je vous emmène avec moi dans cette aventure un petit peu folle et complètement spéciale sur le processus de réflexion. Ici, on va se poser la question aujourd'hui de comment tu penses. Est-ce que toi aussi, tu as cette petite voix dans ta tête là qui revient quand tu te poses des questions ? Pour parler de ce sujet, nous écouterons Svenia ainsi que Luc. Celui-ci nous parlera de son expérience à titre personnel vis-à-vis du processus de réflexion. Et nous conclurons cette émission par la chronique de Martax, pas du tout experte, mais qui nous a prévu une belle petite chronique sur le sujet. C'est parti pour Dans vos têtes. Avant de commencer cette chronique, on va juste faire une petite pause musicale.
Mmh. Ich red mir ein, es wär okay. Es tut schon gar nicht mehr so weh. Es ist okay. Es ist okay. Ich zieh nächtelang durch die Bars mit den Jungs und hab meinen Spaß. Es ist okay. Es ist okay. Wir können noch Freunde bleiben, hast du gesagt. Und ich meinte nur, geht klar. Schon okay. Und ich fahre nachts hellwach allein durch die Straßen. Seitdem du weg bist, kann ich nicht schlafen. Nichts ist okay. Gar nichts okay.
Ich werd verrückt bei dem Gedanken, wo du heute Abend schläfst. Es dreht durch bei der Frage, neben wem du dich schlägst. Ich muss immer an dich denken, ganz egal, wer mich berührt. Ich hoffe, du denkst mal an mich, wenn dich irgendwer verführt. Ich hab seit Tagen nicht geweint. Ich komm schon voll gut klar allein. Ist okay, was soll's schon sein? Ich schlaf alleine auf der Couch. In unserem Bett halt ich's nicht auf. Ist okay, das schaff ich auch. Und ich koch morgens den Kaffee. Wieder für zwei ganz aus Versehen. Ist okay, war nur aus Versehen. Und es ist fast wie Knast in der Wohnung alleine. Die Hälfte vom Bett ist immer noch deine. Nichts ist okay, gar nichts okay. Ich werd verrückt bei dem Gedanken, wo du heute Abend schläfst. Es dreht durch bei der Frage, neben wem du dich schlägst. Ich muss immer an dich denken, ganz egal, wer mich berührt. Ich hoffe, du denkst mal an mich, wenn dich irgendwer verführt. Und ich fahre nachts hellwach allein durch die Straßen. Seitdem du weg bist, kann ich nicht schlafen. Nichts ist okay, gar nichts okay. Und es ist fast wie Knast in der Wohnung alleine. Die Hälfte vom Bett ist immer noch deine. Nichts ist okay, gar nichts okay. Ich werd verrückt bei den Gedanken, wo du heute Abend schläfst. Es dreht durch bei der Frage, neben wem du dich schlägst. Ich muss immer an dich denken, ganz egal, wer mich berührt. Ich hoffe, du denkst mal an mich, wenn dich irgendwer verführt.
On vient d'écouter Ich muss immer an dich denken de SDP. L'émission Dans nos têtes continue maintenant sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Svenia, ainsi que à Luc que vous recevez. Vous allez nous parler de votre expérience de pensée personnelle. À vous de jouer.
Bonjour Luc, merci de me permettre de te poser quelques questions sur tes pensées aujourd'hui. L'endophagie est le phénomène qui consiste à ne pas pouvoir avoir de monologue intérieur. 5 à 10% des personnes n'en sont pas capables. Luc, peux-tu avoir un monologue intérieur ?
Alors oui, bonjour. Alors tout d'abord, merci à vous pour votre chaleureuse invitation. C'est une question qu'on ne se pose plutôt à soi-même lorsqu'on pense, y a-t-il une voix qui nous parle ? Est-ce la nôtre ? Est-ce celle d'une autre personne ? Et s'il n'y a pas de voix, alors qui est-ce qui participe à ce monologue ? Etc. Et c'est donc un sujet très 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 intéressant qui évoque les divergences psychologiques. Alors je vous propose un exemple vécu personnellement et qui vous a sûrement déjà concerné. En cours, j'ai déjà fait face à des situations qui ont déjà suscité ma voix intérieure. Quand j'hésite sur une réponse, je prends un peu de temps pour y réfléchir avant de la dire. Mais en prenant justement ce temps, ce moment de réflexion intérieure, La réponse à la question a déjà été dite. Et il y a toujours cette voix qui me dit justement « Ah, mais je le savais, j'aurais dû le dire ». Et donc, cette voix qui se manifeste serait pour moi une certaine conscience qui se réveille et qui cherche vraiment à exister dans le monde réel, celui dans lequel on vit.
Alors, l'enfantasie est le phénomène qui consiste à ne pas pouvoir avoir la capacité à visualiser un lieu, un visage ou un objet sur commande. 2 à 4% de personnes n'en sont pas capables. Luc, es-tu capable de penser en image?
Alors, je pense tout d'abord qu'il nous arrive à tous d'imager, c'est-à-dire d'avoir en tête cette représentation imagée plus ou moins visible d'une chose dans le monde réel. Une certaine scène assez fréquente qui m'arrive et dont peut-être beaucoup d'entre vous peuvent s'y identifier. C'est cette fameuse scène de cet examen pour lequel vous avez tant révisé des jours et des nuits, mais que finalement, tout vous sort de l'esprit le jour J. Et soudainement, vous pensez, ou même vous voyez cette page de votre cahier dont vous vous essayez vraiment corps et âme de vous en souvenir. Nous sommes, je pense, tous capables d'activer cette anaphantasie tôt ou tard.
Il y a aussi de hyperfantasie, c'est quand on arrive à penser presque comme dans un film. La pensée visuelle est donc un spectre. Sur ce spectre, comment décrirais-tu ta pensée visuelle?
Alors, très très bonne transition avec l'exemple que je vous ai cité juste avant. Alors en effet, il y a des choses, des gens, des lieux que l'on arrive mieux à visualiser que d'autres. Et je pense justement que cela est dû à notre relation avec la chose qu'on le nomme. Et je pense justement que cela est dû à notre relation avec la chose que l'on visualise. Si on trouve par exemple un objet beau ou peut-être intéressant, il y a alors plus de chances que celle-ci marque notre mémoire et que notre pensée façonne cette image de manière très précise. Au contraire, il y a aussi les images floues qui n'arrivent pas à se concrétiser malgré nos efforts mentaux, parce que notre cerveau l'ignore comme s'il y avait un certain tri sélectif au sein du spectre. Le spectre, c'est-à-dire cette évaluation de l'intensité à percevoir plus ou moins une chose.
L'anoralie est l'absence d'imagerie d'auditive antérieure. C'est très rare. Peux-tu imaginer de son?
Alors honnêtement, je ne saurais pas vraiment expliquer cette incompatibilité avec le bruit. Il est très difficile pour moi d'imaginer des sons, car en général, les musiques que l'on écoute sont accompagnées d'une certaine mélodie plus ou moins douce ou plus ou moins agréable, selon l'auditeur.
D'accord, très intéressant. Merci pour ton temps, Luc.
Merci à vous.
Et pour le coup, là, c'est moi qui vous remercie de cette approche assez sérieuse et intellectuelle. Ça fait toujours plaisir d'avoir des points de vue aussi bien étayés. On va revenir dans un instant après une nouvelle courte petite pause avec de la musique parce qu'on n'a jamais assez de musique dans notre vie.
You would hurry up.
Alors, on vient d'écouter Thinking About You de Ariana Grande. On est toujours dans l'émission Dans vos têtes et on continue sur Radio Campus Paris. Maintenant, je vais pouvoir accueillir notre chroniqueuse Martax qui s'installe actuellement en studio. Tout d'abord, Martax, comment tu vas ?
Eh bien, ça va super et toi, Léa ?
Eh bien, ça va impec. Aujourd'hui, tu viens de nous parler de ton point de vue sur la question de la réflexion intérieure. C'est génial parce que tu n'es pas du tout professionnelle. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que tu penses de cette pensée intérieure, quoi, en fait.
Eh bien, écoutez, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Moi, c'est Martax et dans la vie, je pense pas. Voilà, donc depuis le début de l'émission, je suis un peu perdue. On parle de voix dans la tête, je savais pas que Jeanne d'Arc était sur le plateau. En fait, je me suis rendu compte que je pensais pas quand j'ai remarqué que les autres y pensaient beaucoup. Genre, vraiment beaucoup, ça a l'air tellement fatigant, je sais pas comment vous faites. Vous prenez jamais de pause, genre ? Une fois, j'ai dû choisir entre un croissant et un pain au chocolat dans une boulangerie, ça m'a fatiguée. Depuis, j'évite les boulangeries comme les riches évitent les impôts. Je dis « je pense pas » en mode « pas comme si j'étais bête » ou comme si c'était le vide intersidéral dans ma tête. Non, 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 je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Il y a pas longtemps, j'étais co-réalisatrice sur un court-métrage. Il y avait deux autres co-réalisatrices et moi, donc. On a tourné pendant 3 jours de suite en dirigeant 20 personnes. À la fin, on était mortes. Il y a une des co-réalisatrices qui me dit « j'ai un peu peur que l'équipe technique, elle aime pas notre projet. » Et j'étais là en mode « oh, waouh !» J'y avais pas pensé. Mais je dis pas j'y avais pas pensé en mode on a le meilleur projet sur Terre, tout le monde l'adore, il va aller aux Oscars, aux Césars, tout ce que tu veux. Non, 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 juste j'étais occupée, j'étais co-réalisatrice, il y avait 20 personnes à ma charge. Donc forcément, j'ai juste pas pensé au fait à ça en fait. J'étais en train de diriger des gens tout simplement. J'avoue, parfois, il m'arrive de penser, information choquante, je sais. Mais même quand je pense, en fait, c'est assez lunaire. J'ai pas une voix dans la tête, j'ai des images un peu random, libres de droits, qui passent de façon aléatoire. Apparemment, mon cerveau a le budget pour retenir les droits d'acquisition de 3 langues et demie, dont le hongrois. Par contre, les images, non, c'est juste des formes aléatoires. La question « à quoi tu penses ?» moi, c'est mon angoisse. Parce que comment j'explique que je pense à 8 casquettes multicolores qui tournent sur un fond holographique ? Mes pensées, on dirait un clip tectonique fait maison. Donc si vous me voyez bouger bizarrement, c'est pas que je convulse, c'est juste que je suis en train de taper ma meilleure choré de tectonique en harmonie avec mes pensées. Ceci étant dit, décartisé, je pense, donc je suis. Non merci, moi je suis, donc je pense pas, ou je pense pas là. Pa 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 p
Eh ben, merci à toi, Martax, de nous avoir apporté ton point de vue avec un peu plus de légèreté, d'anecdotes. Je pense que maintenant qu'on a eu un point de vue assez sérieux et à la fois des anecdotes un peu plus fancy, malheureusement, ça va être la fin de notre émission. Et oui, je sais, vous êtes tous déçus, moi aussi. Donc, pour ce faire, je vais d'abord remercier l'ensemble des personnes qui sont intervenues. Donc, merci à toi Svenia, merci à toi Lux, merci à toi Martax. Je rappelle qu'on peut retrouver Martax sur son Instagram martax-sur-scène, tout attaché. Et évidemment, merci à notre réalisatrice Léna, ainsi qu'à toute l'équipe de Radio Campus Paris. Bonne fin de journée, bonne soirée, bonne app, je sais pas ce que vous faites, mais passez une bonne journée. Voilà, bisous, ciao.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Fashion Campus sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Emran, votre présentateur, et aujourd'hui, je vous emmène dans les strass et paillettes et les coulisses de la Fashion Week. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de deux Fashion Week. Celle de Paris, mondialement connue et reconnue, celle qui attire tous les paparazzi. Puis celle de Berlin, plus discrète, tournée vers les jeunes créateurs allemands. Pour en parler, nous écouterons Léna, qui va nous présenter sa chronique sur Schiaparelli. Nous accueillerons ensuite Clara, qui nous pose la question suivante. La Fashion Week de Berlin est-elle une pâle copie de ses grandes sœurs? Nous finirons cette émission avec Yesco, qui a reçu Rachel, une influenceuse mode qui a été invitée au dernier défilé Givenchy. Préparez votre meilleur look, soyez prêts pour les flashs, vous écoutez Fashion Campus.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Notre chroniqueuse Léna s'installe en studio. Comment ça va Léna?
Ça va super et toi?
Ça va super, merci. Aujourd'hui tu viens nous parler d'une créatrice de mode romaine, Elsa Schiaparelli. Une chronique intitulée Elsa Schiaparelli, entre élégance troublante et surréalisme provocateur, par Léna Longeas.
Merci Emran. Elsa Schiaparelli, née en 1890 à Rome et morte en 1973 à Paris, est une créatrice de mode et la fondatrice de la maison Schiaparelli, qu'elle a dirigée des années 1930 aux années 1950. Volontairement provocatrice et considérée comme avant-gardiste, elle est célèbre pour l'utilisation du surréalisme dans son œuvre, les couleurs criardes comme son rose shocking, ainsi que l'utilisation non conventionnelle et excentrique du vêtement. Ses collections utilisent de manière récurrente des motifs comme l'anatomie humaine, les insectes et le spectacle. En 1954, elle publie son autobiographie « Shocking Life », où elle relate les grands éléments de sa vie. Elsa Schiaparelli ne crée pas pour habiller les femmes, elle est née pour les questionner, déjouer les règles d'élégance entre alliés, poésie et provocation. Romaine, rêveuse en rose shocking, elle a très tôt compris que la mode pouvait être autre chose qu'un simple exercice d'élégance. Là où Paris murmurait des règles, des lignes pures, une certaine idée du bon goût, Schiaparelli, elle, riait. Elle riait de la bienséance, du beau sans surprise. Et elle cousait des homards sur la soie, transformait des chapeaux en chaussures, imposait une esthétique où le trouble devenait désirable. Chez elle, la beauté n'était jamais confortable. Pour Elsa Schiaparelli, le vêtement n'est pas une décoration, mais une provocation, une manière d'habiller l'esprit autant que le corps. Elle voyait dans le tissu ce que d'autres voyaient dans la pensée. Du mouvement, de la contradiction et surtout une liberté absolue. Ses collaborations avec les surréalistes, de Salvador Dali à Jean Cocteau, ne relevaient pas d'un simple dialogue entre art et couture. C'était un manifeste. L'imagination est une forme de résistance. Un siècle plus tard, son fantôme hante encore les podiums. Il apparaît dans chaque créateur qui ose être étrange, radical, profondément personnel. Car Schiaparelli n'a jamais vraiment dessiné des vêtements. Elle dessinait des idées, et c'est peut-être pour cela qu'elle n'a jamais disparu. Aujourd'hui, cet esprit trouve un nouvel écho sous la direction de Daniel Roseberry, à la tête de la maison depuis 2019. Le créateur américain ne cherche pas à reproduire Schiaparelli, il en saisit le mouvement. Avec lui, la silhouette se fait plus tranchée, presque sculpturale. la couture redevient un territoire d'expérimentation où les matières inattendues et les volumes audacieux racontent quelque chose de plus intime, l'identité et le corps en tension. Son travail explore cette ligne fragile entre l'armure et le vulnérable, entre ce que l'on montre et ce que l'on protège. Il ne s'agit plus seulement d'habiller le corps, mais de le raconter. Et c'est sans doute là le plus bel hommage à Elsa Schiaparelli, faire de la mode un récit, un espace où l'étrangeté devient sincérité, où rêver grâce au tissu reste un acte profondément libre. Chez Schiaparelli, une certitude demeure. La fantaisie n'est jamais superficielle, elle est une prise de position.
Merci beaucoup Léna, et à bientôt. Elle vient de nous rejoindre, elle nous vient tout droit de Berlin. Salut Clara, ça va ?
Ça va bien, et toi ?
Bah ça va super, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu vas maintenant nous parler de la petite sœur moins connue, la Fashion Week de Berlin.
Oui, merci Emran. On peut effectivement se poser la question, la Fashion Week de Berlin est-elle une pâle copie des grandes sœurs de Paris ou de Londres ? À mon avis, il n'est pas possible de comparer les deux. La Berlin Fashion Week possède une vision complètement différente. La Fashion Week a été pour la première fois introduite en 2007 et sa prochaine édition se déroulera du 2 au 5 juillet 2026. Deux fois par an, les visiteurs peuvent regarder plusieurs expositions, défilés de mode, installations ou conférences. Cependant, on ne peut pas voir des marques très connues comme Dior ou Gucci, bien qu'il y ait quelques designers renommés comme Marina Hermanseda. La Fashion Week de Berlin est une opportunité pour les jeunes designers allemands de présenter leurs nouveaux vêtements. Les étudiants en mode peuvent participer à un concours qui s'appelle Start Your Fashion Business et le jury dont Marc Jacobs fait partie choisit le gagnant qui reçoit 5 000 €. Par ailleurs, les organisateurs priorisent l'inclusion des personnes handicapées ou des mannequins plus âgés.
Mais comment cette Fashion Week s'ancre réellement dans la ville de Berlin ?
Il m'est arrivé une fois d'assister à un défilé dans le U-Bahn, le métro berlinois. Même si la moitié des habitants ne savent pas qu'une Fashion Week se déroule dans leur ville, j'ai déjà vu des mannequins et célébrités dans les rues et on voit plein d'affiches partout. Si vous êtes à Berlin, je vous recommanderais d'y aller jeter un œil. Elle se déroulera donc du 2 au 5 juillet. Merci pour votre attention.
Merci Clara. What are you looking at? On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale. C'est parti pour Vogue de l'iconique Madonna. vient d'écouter Vogue de Madonna, sorti en 90 sur l'album I'm Breathless. L'émission Fashion Campus continue sur Radio Campus.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Yesco. Vous recevez Rachel, influenceuse mode, invitée au dernier défilé Givenchy à Paris. Et vous allez nous parler de ce que vous avez vu ce jour-là et votre rapport à la marque.
Bonjour Rachel.
Bonjour Yesco, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci Emran.
Alors, pour commencer, parlez-moi s'il vous plaît un peu de ce défilé auquel vous avez assisté.
Cette année, j'ai assisté au défilé avec la collection automne-hiver 2026-2027 de Givenchy à Paris. Et voilà, c'était dans le 7e arrondissement, ceci mars dernier. Et j'ai l'habitude de cette marque-là et c'est un défilé qui m'a plu comme d'habitude, quoi. Mais voilà.
Très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement touché durant ce défilé ?
Pendant ce défilé, j'ai beaucoup aimé le message, l'association de couleurs. C'était à la fois très sombre, parce que c'est les collections d'automne-hiver, bien évidemment. Et il y a eu quelques touches de couleurs primaires avec des pièces jaunes, rouges, bleues. J'aime beaucoup le fait que ça pop un petit peu, ça sort de ce qu'on voyait dans les autres pièces. Voilà, et les formes aussi. Il y a eu beaucoup de tailleurs et de costumes. Surtout le défilé pour femmes, je parle surtout du défilé de la mode pour femmes. Et voilà, j'ai beaucoup aimé
Merci.
Voilà, cet ensemble.
Et vous venez parler de la marque, alors quel lien entretenez-vous avec la marque ?
En fait, je suis assez familière de cette marque parce que je suis influenceuse mode sur les réseaux sociaux et j'ai déjà fait de nombreuses collaborations avec Givenchy. Ils m'envoient gentiment leurs produits. J'ai assisté à beaucoup de défilés et c'est vraiment un monde qui me correspond. J'aime beaucoup et l'histoire de cette marque me touche beaucoup aussi. Je me suis beaucoup renseignée. J'ai fait beaucoup de musées et je m'entends très bien avec les personnes de cette marque. Et j'aime beaucoup la collection de Sarah Burton depuis qu'elle a repris la direction artistique.
Très bien, merci. Et alors, est-ce que vous avez porté quelque chose de la marque ? Alors, qu'est-ce que vous avez porté quand vous avez assisté à ce défilé ?
J'étais aussi dans des couleurs sombres, puisque c'était pas le thème, mais la tendance générale. Je portais une robe noire assez légère, bien que ce soit automne-hiver, 2026. Je trouve qu'elle était assez jolie, voilà. Et les chaussures qui allaient avec, bien évidemment.
Et pour les intéressés qui nous écoutent, comment avez-vous fait pour être invité à la Fashion Week de Paris ?
J'étais déjà en contact avec la marque depuis plusieurs années par le biais de mon métier, de ma profession. Et aussi par les contacts avec d'autres personnalités que je connais personnellement et qui étaient là au défilé, puisque on a tous un lien. Ça crée un lien, cette marque-là. Avec, il y avait par exemple Iseult ou Rooney Mara ou Diane Kruger.
Alors, on vient de parler beaucoup de la Fashion Week de Paris, mais je me demande quelle est votre Fashion Week préférée du monde ? C'est bien Paris ou d'ailleurs ?
Je pense que c'est Paris, parce que déjà, je connais plus de choses sur la Fashion Week de Paris que celle, par exemple, de Milan ou de Londres. Et puis, c'est une ville qui me touche aussi particulièrement. Après, j'ai entendu qu'il y avait une Fashion Week à Berlin depuis à peu près un peu plus d'une décennie, voire 20 ans presque. Et j'y suis jamais allée, mais je suis curieuse d'y aller pour découvrir un petit peu ce que les artistes ont à nous proposer. Voilà, je trouve ça très intéressant et j'ai hâte d'y aller pour aller découvrir, justement.
Merci beaucoup, Rachel.
De rien, Yesco, merci beaucoup à toi.
Mais merci à vous, merci Yesco, merci Rachel. Je te souhaite bonne continuation dans ton activité professionnelle, bien sûr.
Merci beaucoup.
C'est déjà la fin de notre émission Fashion Campus. Merci à Léna et Clara, nos chroniqueuses mode. Merci aussi à Yesco qui a reçu Rachel et qui a su nous dévoiler les coulisses de cet incroyable défilé. Merci à Lélia pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus France.